Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Commençons peut-être par l'édito politique. Il y a des élections bientôt et des dérapages. Maëlys, je te cède la parole.
Alors moi aujourd'hui, c'est un petit édito local et de saison que je vous propose. En ce début mars, alors que le soleil brille, que les oiseaux chantent, que les grenouilles croassent, que les moutons bêlent dans le jardin de Lyonnaise Descartes. Oui, c'est bientôt le printemps et comme chaque année, c'est la saison des urnes. Non Clément, ce n'est pas une contrebatterie. Par contre, jadis les normaliens...
J'ai eu très peur.
Par contre, jadis les normaliens se battaient autour des urnes, ça c'en est une. Bref, revenons à nos mouflons, il va falloir voter les amis et faire notre devoir de citoyen comme on l'apprend en cours d'éducation civique au collège. Cette année, ce sont les départements qui sont à l'honneur. Élection du conseil général, s'il vous plaît. Et qui dit élection locale dit beaucoup de candidats. Qui dit beaucoup de candidats dit mécaniquement beaucoup de candidats FN. Qui dit beaucoup de candidats FN dit beaucoup de dérapages, bien sûr. Comme d'habitude, il aura fallu les ratisser large pour monter des listes potables un peu partout en France, quitte à dégoter quelques énergumènes racistes, antisémites ou islamophobes. Bon voilà, c'est un peu comme les reportages sur la rentrée ou les courses de Noël, on n'y échappe malheureusement pas. On avait déjà halluciné l'année dernière pour les municipales. La cuvée de cette année est plutôt remarquable, dans le genre choquant et tristement risible. Au menu cette année, un candidat girondin qui nous promet travail, famille, patrie. Et oui, le pétiniste est une espèce menacée de nos jours en France, mais qui malheureusement n'a pas encore disparu. Également sur les listes FN, un Aveyronnais qui a appelé à la destruction des Juifs, une fois et pour toujours, je cite, sur son compte Facebook. Bon, ce discours serait peut-être passé inaperçu il y a 75 ans dans un journal antisémite et collabo, mais en 2015, ça la fout mal quand même. Toujours sur le mode « je suis nostalgique du nazisme et je l'assume sans complexe », nous avons un candidat auvergnat qui avait posté sur son compte Facebook une jolie croix gammée accompagnée de ce message de paix. « Marine, tu es la réincarnation d'Hitler, toi tu vas nettoyer la France. » Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, il y en a aussi pour les musulmans et les homosexuels. Une candidate de l'Ariège a appelé à éliminer, je cite, les musulmans par tous les moyens possibles. Oui, oui, vous ne rêvez pas, on est en France, en 2015, et ces personnes sont potentiellement en passe de vous représenter. Bon, alors bien sûr, une fois que le scandale éclate, c'est sûr, il faut machine arrière. Je ne suis ni raciste, ni islamophobe, c'est défendu un candidat en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, c'est pas par chez toi, Lino. En passe d'être exclu du FN, qui avait posté des photographies de Pierre Berger et de l'anthropologue Dounia Bouzard avec une cible sur le front, élégamment sous-titré « Français, Française, ne nous laissons pas faire ». Et il avait partagé en outre des photomontages comparant Taubira à un singe. Voilà, voilà, c'est pas du joli. Du classique. Bien sûr, la direction du FN minimise. Le secrétaire général du FN, Nicolas Bay, a affirmé qu'on comptait les dérapages sur les doigts d'une main. Bon, en réalité, quand on fait le tour des affaires qui ont été révélées de ces derniers temps, cela tourne plutôt autour des doigts des deux mains avec quelques orteils en plus. Mais bon. Toujours est-il que voilà, 99% des candidats FN qui se présentent aux départementales sont clean et savent se tenir sur les réseaux sociaux. Et les récalcitrants sont traités, je cite, avec fermeté et promptitude. C'est un peu comme le loup qui tente de pénétrer dans une bergerie déguisée en brebis et qui laisse échapper de temps en temps un bout de sa queue et ou qui laisse scintiller ses canines et qui dirait aux brebis « Mais non, ce n'est rien, ne faites pas attention, c'est un détail malheureux. Je vous promets, je suis une gentille brebis. » Ces dérapages récurrents de candidats ou de personnalités FN ne sont pas bien sûr des dérives isolées. Ils donnent simplement un aperçu de ce qu'il y a derrière le masque politiquement correct, de Marine Le Pen qu'elle essaie de construire pour son parti. Au vu de ce que certains candidats osent publier aux yeux de tous sur les réseaux sociaux, on n'ose même pas imaginer ce qui peut se dire au fond des salles de conseil où se réunissent les militants FN, ceux qui composent la réalité profonde de ce parti. Mais qui croira ce discours, me direz-vous? Qui se laissera prendre au piège? Dans une enquête Odoxa pour Le Parisien parue aujourd'hui, 33% des Français interrogés déclarent vouloir voter FN pour les départementales. Impensable il y a quelques années, avant le 11 avril 2002, avant le 25 mai 2014, c'était mon anniversaire. C'est désormais un leitmotiv dans les sondages et les dérapages révélés, les comportements haineux n'éprennent plus désormais l'ascension du Front National. C'est triste à dire, mais cette année c'est officiel, plus les opinions antisémites et racistes se multiplient, plus elles se banalisent, moins elles choquent. Moi je me retirais bien dans une grotte ou sur une île déserte, pas vous.
On te comprend parfaitement, je pense que nous aussi. Et on reparle de ton édito tout à l'heure, évidemment, ne serait-ce que je n'ai pas compris la contrepétrie, et je suis très curieux. Mais avant, Céline, tu t'occupes pour ce premier numéro de l'édito international, et tu nous emmènes en Syrie. Bachar el-Assad est toujours là et redeviendrait presque fréquentable, n'est-ce pas ?
Exactement, Clément. Mais selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme début février, la guerre civile en Syrie a fait 210 000 morts en 4 ans, dont 10 660 enfants. Daesh, pour l'instant, c'est 20 000 morts. Pourtant, on ne fait pas diplomatie avec de la morale et des bons sentiments, et ça, les 4 parlementaires français qui se sont rendus la semaine dernière à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad l'ont bien compris. Les 4 gugus pour Nicolas Sarkozy, à savoir les 2 UMP Jacques Mignard et Jean-Pierre Vial, l'UDI Françoise Oketo et le socialiste Gérard Bapt, ont en effet rendu visite au président syrien, initiative condamnée par François Hollande et par le Quai d'Orsay, et qualifiée par Manuel Valls de faute morale. Alors 4 ans après les premiers soulèvements du 15 mars contre le régime, 3 ans jour pour jour le 2 mars après la fermeture de l'ambassade de France en Syrie, faut-il rouvrir le dialogue avec Bachar el-Assad et contrer l'ennemi commun, la menace djihadiste ? Cette question ouverte par la visite des députés français qui s'en revendiquent n'est pas uniquement française. Qui est le véritable ennemi et avec qui et quoi le combattre ? Dans la grande campagne de dédiabolisation de son régime que Bachar el-Assad est actuellement en train de mener au niveau européen, se fait jour un raisonnement très simple, fondé sur le principe du moindre mal. Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Analyste, journaliste, homme politique ou diplomate n'ignore rien des atrocités commises par le régime, non seulement contre ses opposants, mais surtout contre sa population civile. Et pour la stabilité du Proche-Orient, pour contrer les réseaux djihadistes qui menacent d'engloutir l'Afrique, et pour lutter contre l'extrémisme, il propose pourtant de rouvrir le dialogue avec Bachar el-Assad. Cette position qu'on pourrait traiter de cynique n'en est pas moins réaliste. Actuellement, jusqu'au médiateur des Nations Unies traite avec le président syrien pour faire le lien avec l'opposition. De même, dans le cadre des opérations aériennes contre l'État islamique, les États-Unis ont choisi de survoler le territoire syrien, chose impossible sans l'information et l'accord tacite des autorités syriennes, mais solution à laquelle se refusent toujours autorités britanniques et françaises. Enfin, un règlement réaliste du conflit syrien n'est pas envisageable sans l'implication des minorités protégées par le régime, comme la minorité chrétienne, non représentée par l'opposition, ainsi que des éléments actuels du régime dont les intérêts pourraient converger avec ceux de la frange modérée de l'opposition. Il y a pourtant un mais. La réalité actuelle du conflit, c'est que Bachar el-Assad est un géant au pied d'argile, qui tient encore à la tête du pays grâce à l'aide extérieure combinée du Hezbollah d'une part, l'organisation militaire libanaise financée et armée par l'Iran, et par les officiers des gardiens de la révolution d'autre part, qui viennent tout droit du même régime iranien. La réalité, c'est aussi que Bachar el-Assad ne maîtrise qu'une partie de son territoire, au prix de violations des droits de l'homme quotidiennes, de tortures, de gaz chimiques et d'exactions contre sa propre population. Soutenu jusqu'au bout par l'Iran, prendre parti pour la Syrie, ce serait aussi se positionner au sein d'une guerre confessionnelle dont le territoire syrien est devenu aujourd'hui l'emblème. D'un côté, la famille Assad, appartenant à la branche chiite, dont le bastion aujourd'hui est l'Iran, et de l'autre, une population syrienne à majorité sunnite, branche soutenue par les monarchies pétrolières comme le Qatar, dont beaucoup se sont engagés auprès de Daesh. En effet, la population syrienne délaissée par l'inaction occidentale, constamment opprimée et prise pour un foyer de terroristes, a été poussée à la radicalisation et à l'extrémisme en constatant les atermoiements et reculades des chancelleries occidentales. Ligne rouge après ligne rouge, comme en août 2013, après l'utilisation de gaz chimiques contre son peuple, Bachar el-Assad a minutieusement mis à l'épreuve la capacité de réponse des Occidentaux. Poussée à bout, la majorité sunnite de Syrie et la minorité sunnite d'Irak se sont jetées dans les bras de Daesh pour contrer leur marginalisation croissante organisée par les chiites. Prendre le parti d'Assad et de l'Iran, ce serait alors élargir les rangs de l'État islamique. Et pire encore, enflammer un conflit qui s'étendrait bientôt à tous les pays de la région, Turquie comprise. Les récents attentats en Égypte, la situation du Yémen au bord du chaos ou encore de la Libye ne font que confirmer un peu plus ce scénario. Nous voilà donc devant de nouvelles questions insolubles. Y a-t-il un moment où la diplomatie devient contre-productive, où un renversement des rapports de force militaires devient nécessaire ? Et surtout, quelle est la priorité, lutter contre Daesh ou contre Bachar el-Assad ?
Alors merci Céline pour ces nouvelles du Moyen-Orient qui restent peu réjouissantes. À la fin de l'émission, un peu d'interaction, on a décidé de prendre un peu de temps pour discuter.